Ça s'applique partiellement. On peut dire que les religions communiquent, qu'elles font de la publicité, qu'elles communiquent avec le public à travers des sites web, des médias internet. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de faire ce qu'on appelle en marketing la politique de produit, c'est-à-dire de finalement d'adapter l'offre de religion, d'adapter éventuellement les dogmes, la liturgie aux préférences des gens.
Quels exemples alors est-ce qu'on peut donner d'utilisation de principes de marketing dans les religions aujourd'hui?
Alors, l'exemple que j'ai donné, c'est l'utilisation du latin dans les missels ou des messes en latin, qui a été abandonnée dans l'Église catholique en laissant une partie des fidèles de côté, qui sont en termes de marketing un segment de marché, qui sont des gens plus traditionnels, qui se sont trouvés un peu abandonnés par le fait qu'on ait laissé cette forme de la liturgie.
Puis dans d'autres cas, par exemple pour convaincre les gens de rejoindre les bancs d'église, d'appartenir à une église.
Alors bon, là, apparemment, on n'a pas de solution miracle, hein. Une des choses que je n'ai pas dites dans la conférence, c'est qu'en fait, il y a des problèmes de budget temps. Les gens sont très occupés. Ils ont quand même une vie professionnelle prenante. À côté de ça, ils ont des loisirs, du sport, des choses comme ça. Et on voit clairement que les activités religieuses entrent en concurrence dans les budgets temps des personnes, des fidèles, avec des activités qui sont considérées maintenant comme importantes en dehors du travail. En plus, le travail prend pas mal les gens et le résultat des courses, c'est qu'il y a probablement moins de temps disponible pour la religion. Ce qui serait une des explications de la moindre fréquentation des lieux religieux.
Vous avez évoqué aussi le terme des marchés de la religion aujourd'hui, ça désigne quoi?
Alors ça désigne en fait une thèse économique qui est la suivante, c'est que si on cesse de subventionner les religions, que les fidèles sont obligés de payer pour le culte et pour l'entretien des ministres du culte et pour les édifices de culte, à ce moment-là, va y avoir véritablement de la part des religions un effort pour conquérir les, entre guillemets, consommateurs de religion. Et que cet effort va aboutir de leur part à un plus grand dynamisme, et un dynamisme qui va finalement être au bénéfice des dits consommateurs de religion qui verront en face d'eux une offre plus variée, plus adaptée à leurs besoins spirituels. Mais pour tout dire, c'est quand même cette théorie et du marché des religions, elle ne connaît une vraie pratique que sur le continent américain. Elle n'est pas très très appliquée en Europe, ni peut-être même très applicable.
Et vous, personnellement, vous pensez que c'est quelque chose de souhaitable, cette introduction de la concurrence pour la religion?
Alors moi, je pense que c'est un peu dangereux, parce que si les religions sont liées à des contextes culturels et linguistiques, à des pays où ces religions ont été dominantes, où elles ont été importantes historiquement, pour l'identité des pays. Et donc cesser de les supporter, c'est laisser la porte ouverte quand même à une espèce de désagrégation. C'est-à-dire, imaginons que la Genève calviniste n'ait plus aucun moyen de s'exprimer en tant que Genève calviniste, ou que la Suisse centrale catholique n'ait plus moyen de s'exprimer en tant que telle, ça serait quand même une grande perte pour l'identité. Et l'identité, surtout dans un pays comme la Suisse, c'est quelque chose de très important.